Chapitre 4. Les dieux, ces divinités célestes qui planent au-dessus des humains, faisant et défaisant les amours juvéniles, avaient décidé qu'Obinze sortirait avec Ginika. Obinze était le nouveau, un beau garçon, en dépit de sa petite taille. Il venait du collège de Ntsuka, et à peine quelques jours plus tard, tout le monde connaissait les rumeurs qui couraient sur sa mère. Elle s'était battue avec un homme, un autre professeur de Ntsuka. Une vraie bataille, à coups de poing et de pied. Et elle avait gagné, allant jusqu'à déchirer ses vêtements, ce qui lui avait valu d'être suspendue pendant 2 ans et de s'installer à Lagos jusqu'à ce qu'elle puisse revenir. C'était une histoire inhabituelle. Les femmes du marché se battaient, les folles se battaient, mais pas les professeurs. Obinze, avec son air calme et réservé, rendait la chose encore plus intrigante. Il avait été rapidement admis dans le clan des jeunes mâles qui roulaient des mécaniques, désinvoltes et insouciants, les big guys. Il s'attardait dans les couloirs avec eux, restait avec eux au fond du hall pendant l'assemblée. Aucun ne rentrait le pan de sa chemise dans son pantalon, ce qui leur attirait toujours des ennuis auprès des professeurs, des ennuis et du prestige. Mais Obinze venait au collège avec sa chemise rentrée dans son pantalon. Et bientôt, tous les big guys suivirent son exemple, même Kayode da Silva, le plus désinvolte de la bande. Kayode passait toutes ses vacances en Angleterre dans la maison de ses parents, qu'Ifemelu avait trouvée grande et menaçante sur les photos. Sa petite amie, Yinka, était comme lui. Elle aussi allait souvent en Angleterre, vivait à Ikoyi et parlait avec un accent anglais. C'était la fille la plus populaire de leur classe. Son sac d'école était en cuir épais frappé d'un monogramme, ses sandales toujours différentes de celles des autres élèves. La deuxième fille la plus populaire s'appelait Ginika, la meilleure amie d'Ifemelu. Ginika n'allait pas souvent à l'étranger et n'avait pas l'air à part comme Yinka, mais elle avait une peau couleur caramel et des cheveux ondulés qui, dénatés, tombaient sur ses épaules au lieu de rester dressés dans le style afro. Chaque année, elle était élue la plus jolie fille de leur classe et disait avec ironie « C'est uniquement parce que je suis métisse, comment pourrais-je être plus belle que Zainab ?» Il était donc dans l'ordre naturel des choses que les dieux réunissent Obinze et Ginika. Kayode avait organisé une fête à l'improviste dans leur maison d'amis pendant que ses parents étaient à Londres. Il dit à Ginika « Je vais te présenter à mon pote Zed, à la fête. »« Il n'est pas mal, » dit Ginika en souriant. « J'espère qu'il n'a pas hérité des gènes bagarreurs de sa mère, » l'avait taquiné Ifemelu. C'était chouette de voir Ginika s'intéresser à un garçon. Presque tous les big guys à l'école avaient tenté leur chance auprès d'elle et aucun n'avait tenu longtemps. Obinze était calme. Ils étaient bien assortis. Ifemelu et Ginika arrivèrent ensemble. La fête avait à peine commencé. La piste de danse était déserte. Les garçons couraient partout avec leurs cassettes, aussi timides et gauches qu'à l'habitude. Chaque fois qu'Ifemelu venait chez Kayode, elle se demandait à quoi ressemblait la vie ici, à Ikoyi, dans cette grande et belle propriété à la cour gravillonnée et aux serviteurs vêtus de blanc. « Voilà Kayode avec le nouveau, » dit Ifemelu. « Je ne veux pas regarder, » dit Ginika. « Est-ce qu'ils viennent par ici ?»« Oui. Mes chaussures sont tellement étroites. Tu peux danser avec des chaussures étroites, » dit Ifemelu. Les garçons étaient devant elle. Obinze semblait engoncé dans une veste de velours épais, tandis que Kayode portait un t-shirt et un jean. « Salut les filles !» dit Kayode. Grand, élancé, il avait une aisance naturelle. « Ginika, voici mon ami Obinze. Zed, je te présente Ginika, la reine que Dieu a créée pour toi si tu es prêt à la mériter. » Il les raillait. Déjà légèrement ivre, le garçon béni des dieux qui arrange un mariage béni des dieux. « Salut, » dit Obinze à Guinika. « Et voici Ifemelu, » dit Kayode. « Connue aussi sous le nom d'Ifemsko. Elle est l'homme de confiance de Guinika. Si tu te conduis mal, elle te fouettera. » Ils éclatèrent d'un rire convenu. « Salut, » dit Obinze. Son regard croisa celui d'Ifemelu sans se détourner. Kayode parlait de choses et d'autres, racontait à Obinze que les parents de Guinika étaient également professeurs à l'université. « Ainsi, vous êtes tous les deux dans les livres ?» dit-il. Obinze aurait dû enchaîner et se mettre à parler avec Guinika. Kayode serait parti, Ifemelu l'aurait suivi, et la volonté des dieux aurait été accomplie. Mais Obinze ne prononça presque pas un mot, et Kayode resta seul à entretenir la conversation, sur un ton de plus en plus impatient. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Obinze, comme pour le pousser à prendre l'initiative. Ifemelu ne sut jamais quand c'était arrivé, mais pendant que Kayode parlait, quelque chose d'étrange se produisit en elle. Une impatience, une sensation naissante. L'impression soudaine qu'elle avait envie de respirer le même air qu'Obinze. Elle se sentit en même temps brusquement consciente du moment présent, de l'instant. De la voix de Tony Braxton qui jaillissait du lecteur de cassette « Be it fast or slow, it doesn't let go or shake me ». De l'odeur du brandy du père de Kayode, subrepticement piqué dans la maison principale, et du chemisier étroit qui la gênait sous les aisselles. Tante Uju lui avait dit de le nouer, en un nœud lâche, au-dessus du nombril, et elle se demandait à présent si c'était véritablement élégant ou si elle avait l'air d'une gourde. La musique s'arrêta brusquement. « J'y vais, » dit Kayode, et il partit voir ce qui n'allait pas. Dans le silence, Guinika se mit à jouer avec le bracelet de métal qui entourait son poignet. Le regard d'Obinze croisa à nouveau celui d'Ifemelu. Tu n'as pas trop chaud avec cette veste ? Demanda Ifemelu. La question avait jailli malgré elle, tant elle était habituée à parler sans contrainte, à voir la terreur apparaître dans les yeux des garçons. Mais il souriait. Il semblait amusé. Il n'avait pas peur d'elle. Très chaud. Dit-il. Mais je suis un cutéreux, et c'est ma première fête en ville, tu dois donc me pardonner. Il retira lentement sa veste, verte et renforcée aux coudes, sous laquelle il portait une chemise à manches longues. Maintenant, il va falloir que je la trimballe avec moi. Je peux te la tenir ? Proposa Guinika. Et n'écoute pas, Ifem, ta veste est très bien. Merci, mais ne t'en fais pas, c'est à moi de m'en charger, ça m'apprendra à l'avoir mise. Il regarda Ifemelu, l'œil pétillant. Ce n'était pas ce que je voulais dire, dit Ifemelu. Mais il fait si chaud dans la pièce et cette veste a l'air si lourde. J'aime bien ta voix, dit-il, l'interrompant presque. Et elle, qui ne se démontait jamais, croassa. Ma voix ? Oui. La musique avait commencé. Tu viens danser ? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il prit sa main et sourit à Guinika comme à un charmant chaperon dont la mission était à présent terminée. Ifemelu trouvait stupides les romans sentimentaux harlequins, mais ses amis et elle s'amusaient parfois à rejouer les scènes. Ifemelu ou Raninudo endossaient le rôle de l'homme et Guinika ou Plié celui de la femme. L'homme se saisissait de la femme se débattait faiblement, puis se laissait aller contre lui avec des gémissements aigus. Et elle s'esclaffait. Mais sur la piste de danse de Kayode, bientôt bondée, elle éprouva un choc en réalisant que ses romans contenaient une petite part de vérité. Il était vrai qu'en présence d'un mâle, votre estomac pouvait rester obstinément noué, vos articulations flanchées, vos membres refusaient de suivre la musique, et le moindre geste naturel devenir soudain d'une lourdeur de plomb. En se déplaçant d'un pas raide, elle vit sur le côté Guinika qui les observait, l'air stupéfait, la bouche entrouverte, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui était arrivé. « Tu as vraiment dit cutéreux ? Dit Ifemelu, haussant la voix pour dominer la musique. Quoi ? Personne ne dit cutéreux, c'est le genre de choses qu'on trouve dans les livres. J'aimerais bien savoir quel livre tu lis, dit-il. Il la taquinait, et elle ne saisit pas très bien la plaisanterie, mais elle rit. Plus tard, elle regretta de ne pas avoir retenu tout ce qu'il s'était dit pendant qu'il dansait. Elle se souvint seulement d'avoir eu l'impression de flotter. Quand les lumières s'éteignirent et que le moment vint de danser un blues, elle aurait voulu être dans ses bras dans un coin sombre, mais il dit « Allons bavarder dehors ». Ils s'assirent sur des blocs de ciment derrière la maison d'amis, près de ce qui semblait être les toilettes du gardien, une cabine étroite qui, lorsque le vent soufflait, laissait échapper un relent nauséabond. Ils parlèrent encore et encore, avides de se connaître. Il lui dit que son père était mort quand il avait 7 ans et qu'il se souvenait clairement de l'époque où il lui apprenait à faire du tricycle dans une rue bordée d'arbres, près de leur logement sur le campus, mais qu'il découvrait parfois, pris de panique, qu'il était incapable de se remémorer son visage et, accablé par un sentiment de trahison, il se hâtait alors d'aller examiner la photo accrochée au mur de leur séjour. Ta mère n'a jamais voulu se remarier ? Même si elle l'avait voulu, je ne pense pas qu'elle l'aurait fait, à cause de moi. Je veux qu'elle soit heureuse, mais je ne veux pas qu'elle se remarie. J'éprouverais le même sentiment. Elle s'est réellement battue avec un autre professeur ? Tu as donc entendu parler de cette histoire ? On dit que c'est pour ça qu'elle a dû quitter l'université de Nsuka. Non, elle ne s'est pas battue. Elle faisait partie d'un comité et ils ont découvert que ce professeur avait détourné des fonds. Ma mère l'a accusé publiquement. Il s'est mis en colère et l'a giflé. Il a dit qu'il ne supportait pas qu'une femme lui parle ainsi. Ma mère s'est levée, a fermé à clé la porte de la salle de réunion et mis la clé dans son soutien-gorge. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui rendre sa gifle parce qu'il était plus fort qu'elle, mais qu'il devait s'excuser publiquement devant tous ceux qui l'avaient vu la frapper. Ce qu'il fit, mais elle savait qu'il n'était pas sincère. Elle a dit que ses excuses étaient du genre « Bon, je regrette, si c'est ça que tu veux entendre, et maintenant donne la clé. » Elle est rentrée à la maison en rage. Elle répétait que les choses avaient changé et comment accepter qu'aujourd'hui on puisse se permettre de gifler quelqu'un ? Elle a écrit des circulaires et des articles sur le sujet, et l'association des étudiants s'en est mêlée. Les gens disaient « Oh, pourquoi l'a-t-il giflée alors qu'elle est veuve ?» Ce qui l'irritait encore davantage. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû être giflée parce qu'elle était un être humain à part entière, pas parce qu'elle n'avait pas de mari pour parler à sa place. Alors certaines de ses étudiantes ont fait imprimer « un être humain à part entière » sur des t-shirts. C'est sans doute ce qui l'a rendue célèbre. Elle est en général très calme et a peu d'amis. C'est pour ça qu'elle est venue à Lagos ? Non. Elle avait l'intention de prendre un congé sabbatique depuis quelque temps. Je me souviens de la première fois où elle m'a dit qu'elle voulait s'accorder un congé de 2 ans. J'étais tout excitée car je pensais qu'on irait en Amérique. Les parents d'un de mes amis venaient juste de partir là-bas. Puis elle a dit que ce serait Lagos. Et je lui ai demandé pourquoi. Autant rester à Nsuka. Ifemelu se mit à rire. Mais venir à Lagos, c'était au moins l'occasion de prendre l'avion. Oui. Sauf que nous sommes venus en voiture, dit Obinze en riant. En tout cas, maintenant, je suis heureux qu'elle ait choisi Lagos, sinon je ne t'aurais pas rencontré. Ni rencontré Guinika, dit-elle moqueuse. Arrête. Tes copains vont te tuer. Tu es censé t'intéresser à elle. Je m'intéresse à toi. Elle se rappellerait toujours cet instant. Ces mots. Je m'intéresse à toi. Je t'ai vu à l'école l'autre jour. J'ai même interrogé Kay à ton sujet. Tu es sérieux ? Je t'ai vu avec un bouquin de James Hadley Chase, près du labo, et je me suis dit « Ah, chouette, il y a de l'espoir. Elle lit. » Je crois les avoir tous lus. Moi aussi. Quel est ton préféré ? Miss Chamouet jette un sort. Et moi, le dernier du Colt. Je n'ai pas pu le lâcher avant de l'avoir fini. Oui, je l'aime bien aussi. Et les autres livres ? Quels sont les classiques qui t'intéressent ? Des classiques?
Quoi?
Je n'aime que les policiers et les thrillers. Sheldon, Ludlum, Archer.
Mais tu dois aussi lire de vrais livres.
Elle le regarda, amusée par son sérieux.
Enfant gâté, fils d'universitaire, c'est sans doute ce que t'as appris ta professeure de mère.
Non, sans blague. Il fit une pause. Je vais t'en prêter quelques-uns pour voir. J'ai une passion pour les Américains.
Tu dois aussi lire de vrais livres, dit-elle en l'imitant.
Et la poésie? Quelle est la dernière que nous avons étudiée en cours?
Le vieux marin. Tellement ennuyeux.
Obinze rit et Ifemelu, peu désireuse de poursuivre sur le thème de la poésie, demanda.
Alors, qu'est-ce que Kayode a dit de moi?
Rien de mal, il t'aime bien.
Tu ne veux pas me répéter ce qu'il a dit?
Il a dit, Ifemelu est une super nana, mais elle crée trop de problèmes. Elle discute, elle parle, elle n'est jamais d'accord. Mais Ginika est une gentille fille.
Il s'interrompit avant d'ajouter. Il ne savait pas que c'était exactement ce que j'espérais entendre. Les filles trop gentilles ne m'intéressent pas.
Tu cherches à m'insulter?
Elle le poussa du coude, feignant la colère.
Elle avait toujours aimé cette image d'elle-même, la fille qui créait des ennuis, qui était différente, et elle pensait parfois que c'était une carapace qui la protégeait.
Tu sais très bien que je ne t'insulte pas.
Il passa un bras autour de ses épaules et la tira doucement vers lui. C'était la première fois que leur corps se touchait et elle se raidit. Je t'ai trouvée très jolie, mais pas seulement. Tu semblais être le genre de personne qui agit comme bon lui semble, et pas parce que tout le monde le fait. Elle posa sa tête contre lui et éprouva pour la première fois ce qu'elle ressentirait souvent avec lui, de l'estime pour elle-même. Il lui apprit à s'aimer. Elle se sentait à l'aise, bien dans sa peau. Elle lui avoua qu'elle aurait bien voulu croire que Dieu existait, mais craignait qu'il n'en soit rien, qu'elle s'inquiétait de ne pas savoir ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle ne savait même pas ce qu'elle avait envie d'étudier à l'université. Cela lui paraissait si naturel de lui parler de choses et d'autres. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. Cette confiance si soudaine et si totale, cette intimité l'effrayèrent. Ils ne connaissaient rien l'un de l'autre quelques heures plus tôt, et pourtant une connivence était née entre eux pendant ces quelques moments avant qu'ils ne se mettent à danser. Et maintenant, elle ne pensait plus qu'à ce qu'elle voulait lui dire, à ce qu'elle voulait faire avec lui. Les similarités entre leurs vies devenaient d'heureux présages. Ils étaient tous deux enfants uniques, fêtaient leur anniversaire à 2 jours d'intervalle, et leur village natal était situé dans l'état d'Anambra. Il était originaire d'Aba et elle d'Umunachi, et les deux villages se trouvaient à quelques minutes l'un de l'autre.
« Un de mes oncles se rend tout le temps dans ton village, » lui dit-il. « Je l'ai parfois accompagné. Les routes sont terribles chez toi. »«
Je connais Aba. Les routes y sont pires. »«
Tu reviens souvent dans ton village ?»«
Pour Noël ?»«
Une seule fois par an ?»
J'y vais souvent avec ma mère au moins 5 fois par an.
Mais je parie que je parle Igbo mieux que toi.
Impossible, dit-il, et il se mit à parler Igbo.
Ama matuino.
Je connais même des proverbes.
Oui, les classiques que tout le monde sait par cœur.
Une grenouille ne sort pas l'après-midi pour rien.
Non, je connais des proverbes sérieux.
Akota ife ka ubi, ele oba. Si on déniche quelque chose de plus grand que la ferme, la grange est vendue.
Ah, tu veux me tester? Demanda-t-elle en riant.
Achoafu adi, akun kapadibia.
Le sac du sorcier contient toutes sortes de choses.
Pas mal, dit-il.
Egbuo dike nugo uno, eluona ugo agu. Eloteya.
Si tu tues un guerrier dans un combat de voisinage, tu te souviendras de lui quand tu combattras des ennemis.
Ils échangèrent des proverbes.
Elle n'en récita que 2 de plus avant de renoncer, alors qu'il était impatient de continuer.
Comment sais-tu tout ça? Demanda-t-elle impressionnée.
La plupart des garçons ne connaissent pas un mot d'Igbo, sans parler de proverbes.
Il me me suffit d'écouter mes oncles parler. Je pense que mon père aurait été content. » Ils restèrent silencieux. De la fumée de cigarettes s'élevait de l'entrée de la maison d'amis, où des garçons s'étaient rassemblés. Les bruits de la fête flottaient dans l'air. Une musique à plein volume, des voix perçantes, les éclats de rire des garçons et des filles, tous plus libres et déchaînés qu'ils ne le seraient le lendemain. « On ne s'embrasse pas ?» demanda-t-elle. Il parut surpris.
« D'où tu sors ça ?»«
Je demande seulement. Nous sommes restés si longtemps assis tous les deux. Je ne veux pas que tu croies que j'ai uniquement ça en tête. Et si on parlait de ce que je veux, moi ?
Qu'est-ce que tu veux ?
À ton avis ?
Ma veste ?
Elle rit.
Oui, ta fameuse veste.
Tu m'intimides, dit-il.
Tu es sérieux ? C'est plutôt toi qui m'intimides.
Je crois qu'il n'y a rien qui puisse t'intimider.
Ils s'embrassèrent, pressèrent leurs fronts l'un contre l'autre, se tinrent la main. Le baiser d'Obinze était agréable, presque grisant. Il ne ressemblait pas à ceux de son ex-petite amie, Mofé, dont les baisers lui paraissaient trop mouillés.
Quand elle en parla à Obinze quelques semaines plus tard, elle dit « Et dis-moi, où as-tu appris à embrasser ? Parce que ça n'a rien à voir avec les tâtonnements salivaires de mon ex. » Il éclata de rire et répéta « Tâtonnements salivaires ?» Puis lui dit que ce n'était pas une question de technique, mais d'émotion. Il avait fait la même chose que son petit ami, mais la différence, dans ce cas, c'était l'amour. « Tu sais que ça a été le coup de foudre entre nous deux, » dit-il.
« Entre nous deux ? C'est obligé. Pourquoi parles-tu à ma place ?»«
Je me borne à rapporter un fait. Arrête de lutter. » Ils étaient assis côte à côte sur un bureau, au fond de la salle de classe d'Obinze, presque déserte. La sonnerie de la fin de la récréation retentit, stridente.
« Oui, c'est un fait, » dit-elle.
« Quoi ?
Que je t'aime ?» Les mots lui étaient venus spontanément, avec force. Elle voulait qu'ils les entendent et elle voulait que le garçon assis devant eux, un binoclard studieux, entende lui aussi, ainsi que les filles dans le couloir.
« Un fait, » répéta Obinze avec un large sourire. À cause d'elle, il s'était inscrit au club des débats, et quand elle prenait la parole, il applaudissait plus fort et plus longuement que tout le monde, jusqu'à ce que les amis d'Ifemelu disent « Obinze, s'il te plaît, ça suffit !» À cause de lui, elle s'inscrivit au club de sport et le regarda jouer au football, assise près de la ligne de touche, sa bouteille d'eau à la main. Mais c'était au ping-pong qu'il préférait jouer, transpirant, hurlant, rayonnant d'énergie, écrasant la petite balle blanche. Et elle s'émerveillait de son habileté, de la façon dont il s'éloignait de la table et parvenait quand même à attraper la balle. Il était déjà le champion incontesté de l'école, comme il l'avait été, lui dit-il, dans la précédente. Quand elle jouait avec lui, il lui disait en riant « Ce n'est pas en tapant sur la balle comme une dingue que tu vas gagner, oh !» À cause d'elle, ses amis se mirent à l'appeler « le toutou de madame ». Un jour, comme ils parlaient de se retrouver après les cours pour aller jouer au football, l'un d'eux demanda « Est-ce qu'Ifemelu t'a donné la permission de venir ?» Et Obinze répondit du tac au tac « Oui, mais elle ne m'a accordé qu'une heure. » Elle aimait le voir afficher carrément leur relation comme une chemise de couleur voyante. Il lui arrivait de s'inquiéter d'être trop heureuse. Elle devenait alors d'humeur maussade, le rudoyait ou se montrait distante. Et sa joie se transformait en tourment, battant des ailes au plus profond d'elle-même, comme cherchant une issue pour s'envoler.